38e aventure. Comment le roi noble tint court plénière et comment Isengrin fit une seconde clameur contre Renard. Perrault, qui mit tout ce qu'il avait d'esprit et d'étude à faire des vers sur Renard et son cher compère Isengrin, Perrault qui nous a si bien raconté comment Sire Noble le lion avait partagé la proie et comment Renard avait refusé de prêter serment sur la dent de Saint-Rognos, a pourtant oublié le plus beau de sa matière. J'entends le jugement rendu dans la cour du roi noble sur la grande querelle de cet odieux renard avec Messire Isengrin et Dame Ersan, sa noble épouse. L'histoire dit que l'hiver était passé, l'aubépine fleurissait et la rose commençait à s'épanouir. On approchait de l'ascension quand Sire Noble le roi convoqua les bêtes dans son palais pour s'y former en cour. Toutes répondirent à l'appel, toutes à l'exception de Dame Renard, le trompeur et le mauvais larron. Chacun a l'ordre de le diffamer à qui mieux et de rappeler ses gestes. Isengrin ne devait pas être le dernier à saisir l'occasion d'assurer sa vengeance. Il s'avança jusqu'au fauteuil du roi et parla en ces termes. « Beau très doux sire, je vous demande justice de l'outrage commis par Renard à l'égard de Dame Ersan, ma femme épousée. Il l'avait conduite par surprise dans son château de Maupertuis. Avant de lui laisser le temps de se reconnaître, il l'avait outragée de faits et de paroles. J'arrivais pour être témoin de ses insolences. Quelque temps auparavant, il avait furtivement pénétré dans ma demeure et souillé de ses ordures mes louveteaux, comme pour ne rien épargner de ce que j'avais de cher dans le monde. Sur la plainte que j'en avais portée naguère à votre cour, Renard prit jour pour se justifier, mais les saints apportés, il jugea plus à propos, par quel conseil je l'ignore, de reculer précipitamment et de regagner son repère. Ce fut, comme on le pense bien, à mon grand regret. » L'empereur, ayant attentivement écouté, répondit. « Isengrin, croyez-moi, désistez-vous de votre clameur. Vous n'avez aucun intérêt à rappeler votre honte. Les barons et les comtes, les rois eux-mêmes, sont exposés à des ennuis pareils. Ils y sont peu sensibles. » Tous ceux qui tiennent les hautes cours sont tout ce que vous pensez être, et jamais pour si peu de choses je ne vis faire tant de bruit. Les chagrins domestiques sont toujours de ceux dont on fait bien de ne rien dire. Ah, sire, dit alors Brun l'ours, vous pourriez parler avec plus de convenance. Isengrin est-il mort ou retenu prisonnier, qu'il n'ait pu trouver les moyens de se venger lui-même des insultes de Renard? Tout au contraire, on le sait assez puissant pour ôter à ce roux les moyens de nuire. Mais il a été retenu par le respect de la paix nouvellement jurée. C'est à vous, souverain du pays, à prévenir la reprise des armes, à maintenir l'union entre vos barons. Nous sommes prêts à mettre haro sur ceux que vous accuserez. Isengrin se plaint de Renard, faites prononcer jugement sur la querelle, et si l'un doit à l'autre, il faut qu'il satisfasse et vous paie en outre l'amende du méfait. Envoyez donc citer Renard dans Maupertuis. Pour ce qui me regarde, si vous me chargez du message, je me fais fort de l'amener ici et de le tenir au courant des usages de la cour. Sire Brun, dit alors Bruyant le taureau, malheur, je ne dis pas à vous, mais à qui se réunirait à vous pour conseiller au roi de prendre l'amende du tort et de la honte que Renard aurait fait à sa commère. Renard a commis tant de crimes, outragé tant de bêtes honorables, que personne ne doit le recevoir à merci. Pourquoi Messire Isengrin viendrait-il justifier des faits qui sont à la connaissance de tout le monde? Qu'on en dise ce qu'on voudra, mais si cet insigne larron, cet odieux trompeur, ce méchant roux de Renard avait jamais dit à ma femme une seule parole insolente, il n'y a ni fort ni château, il n'y a pas de Maupertuis qui m'empêcherait de le broyer et de jeter dans un privé sa puante charogne. À quoi pensiez-vous donc, Dame Ersan, de ne pas vous être vengé vous-même? En vérité, je comprends votre confusion d'avoir pu de sang-froid recevoir quelque affront de la part d'un être aussi facile à châtier. Écoutez, sire Bruyant, dit alors Grimbert le blaireau, il faut à tout prix étouffer le bruit d'un aussi mauvais cas. Tel qu'il a divulgué, commenté, exagéré, regretterait bientôt de ne le pouvoir retenir. Il ne s'agit ici ni de violence ouverte, de portes brisées, de trêves rompues. Tous les mauvais procédés reprochés à Renard peuvent être l'effet d'un amour très excusable. En conséquence, on ne devait pas se hâter d'en parler mal et d'en porter plainte. Renard aimait Hersan depuis longtemps et Madame Hersan n'aurait pas fait clameur s'il avait dépendu d'elle. Pour Isengrin, avouons qu'il a pris cela beaucoup trop à cœur et qu'il aurait dû se garder d'en instruire le roi et le baronnage. Qu'il veuille bien examiner un peu. S'il reste la moindre trace du délit, si la maison est endommagée ou les meubles brisés, enfin s'il a perdu dans tout cela la valeur d'une noix de coudrier, je m'engage au nom de Renard à tout remettre en état et à lui en faire prendre l'engagement dès qu'il sera arrivé. Mais, en fin de compte, la honte de tout cela va retomber sur Hersan. Oui, madame, le profit le plus clair pour vous du bruit qu'a fait votre mari sera d'être l'objet de toutes les conversations, de tous les colibés. Ah, vous seriez la dernière des créatures si vous aimiez Isengrin après cela et si vous pouviez souffrir qu'il vous donnât le nom de sœur ou d'épouse. Ces paroles firent remonter le rouge au visage de madame Hersan. Tout son corps frémit et la sueur parut inonder son front. Enfin, jetant un grand soupir, « Sire Grimbert, dit-elle, vous avez raison. J'aurais mille fois mieux aimé que Monseigneur et Renard demeurassent bons amis. Il est certain que jamais Renard n'eut de moi la moindre faveur, et je suis, pour le prouver, prête à subir l'épreuve du fer chaud ou de l'eau froide. Mais hélas, de quel poids sera ma déclaration ? On n'ajoute pas foi à ce que peut dire une pauvre malheureuse. » Oui, j'atteste tous les saints qu'on adore, et Dieu mon sauveur lui-même, que Renard ne me traita jamais autrement que si j'eusse été sa mère. Non que je le dise pour Renard ou pour le profit de sa cause. Je ne me soucie pas de lui et de ceux qui l'aiment ou le haïssent plus que du chardon dont les ânes se régalent. Mais je le dis pour Monseigneur Isengrin, dont la jalousie ne me laisse pas de relâche et qui s'imagine toujours qu'on l'a trompé. Par la foi que je dois à mon fils Pinsard, il y aura 10 ans au 1er avril, le propre jour de Pâques, que l'on nous maria, Isengrin et moi. Les noces furent somptueuses. Nos fossés, nos terriers, pouvaient à peine contenir les bêtes conviées à la fête. Une noix n'y aurait pas trouvé place pour y pondre son œuf. J'ai, depuis ce temps, vécu en loyale épouse, sans donner à personne le droit de me blâmer ou de me prendre pour une bête folle. Ainsi, que l'on me croit ou non, je n'en attesterai pas moins, Sainte Marie, que jamais je ne fis rien qu'une sage et pieuse nonne ne pût avouer. » Le discours d'Hersan et la façon naturelle dont elle avait justifié sa conduite répandirent une joie inexprimable dans la bonne âme de l'âne, dame Bernard. Il en conclut qu'Isengrin pouvait bien avoir raison, mais que dame Hersan n'avait pas tort. « Ah ! S'écria-t-il, gentille baronne, plût à Dieu que mon ânesse fût aussi sage, aussi loyale que vous. Vous avez adjuré Dieu et les saints du paradis, il suffit. Je soutiendrai votre cause et je suis tout prêt à jurer avec vous. Dieu ne me fasse pas miséricorde qu'il ne me laisse trouver un seul tendre chardon si vous avez jamais favorisé l'amour et les sollicitations de Renard. Mais telle est la méchanceté, la médisance et l'envie du siècle qu'il affirme ce qu'il n'a pas vu et blâme ce qu'il devrait honorer. Ah, Renard, maudite l'heure où vous fûtes engendré, où vous êtes venu au monde. Car c'est par vous que le bruit s'est répandu de la faiblesse d'Hersan à votre endroit. Vous êtes un insigne menteur. Quelle apparence, en effet, quand elle vient offrir aujourd'hui de se justifier par l'épreuve du fer chaud ou de l'eau bouillante. Hersan l'écouta avec une agréable surprise, mais se garda d'ajouter un mot. Chacun alors de dauber à qui mieux sur Renard. C'est ainsi qu'on agit à l'égard de ceux dont la cause est désespérée. Le seul Grimbert, en ami fidèle, soutint contre tous les intérêts de son cousin. Il s'avance devant le roi, abaisse son chaperon sur ses épaules et, relevant son manteau, « Je demande, dit-il en moment de silence. » « Sire, veuillez en gentil et bon prince apaiser la querelle de vos deux barons et recevoir à merci dame Renard. Permettez-moi de le conduire ici. Vous entendrez ses réponses et si votre cour le condamne, vous fixerez l'amende qu'il devra subir. Il y satisfera. que s'il a négligé de venir en cours et s'il n'a pas justifié son absence, vous pourrez lui adresser une réprimande sévère et l'obliger à une double composition. » Le Conil, ou Lapin, honora ce discours et celui de Bernard l'archiprêtre de son approbation. « Par Saint-Amand, s'écria-t-il, messire Grimbert a sagement parlé. Si Dampe Renard était contraint de quitter la terre sans être entendu, la justice en serait blessée. Que Renard soit donc mandé, je m'en rapporte à lui du soin de sa justification. Mais s'il a réellement mérité quelques reproches à l'égard de Damersan, sois en dit, sois en fait, il en conviendra plutôt que de se rendre parjure. Ainsi, je me porte volontiers pour le garant de Damersan avec Bernard, le prudent archiprêtre. Je laisse la parole à d'autres et je me tais. » La cour, après tous ces débats, conclut en ces termes. « Sire, plaise à vous, dans le cas où Renard, sommé de comparaître, ne se présenterait pas et ne fournirait aucune excuse, ordonnez qu'il soit ici traîné de force pour y entendre la sentence qu'il conviendra de prononcer. » « Baron, dit le roi noble, vous méprenez en voulant porter un jugement contre Renard. Vous donnez à ronger un os qui, plus tard, le cas échéant, vous brisera les dents. Songez-y bien, autant vous en pend à l'œil. J'ai grand sujet de me plaindre de Renard, mais je n'entends pas le perdre s'il consent à reconnaître ses torts. Croyez-moi donc, Isengrin, consentez à l'épreuve que votre femme réclame. » Ou bien, à votre défaut, je prendrai sur moi de l'ordonner. Ah, sire, répartit vivement Isengrin, n'en faites rien, je vous prie. Car enfin, si cette épreuve demandée par Hersan lui devient funeste, si l'eau bouillante ou le feu l'atteigne, tous le sauront, ceux-même qui l'ignorent encore, et mes ennemis s'en réjouiront. Ils diront en me voyant, le voilà le jaloux, celui que sa femme a trompé. J'aime mieux retirer ma plainte et me faire justice moi-même. Viennent les vendanges et je compte bien donner une chasse à Renard dont serrure ou clé, muraille ou fossé ne sauront le défendre. C'est donc le diable maintenant, répartit le roi noble avec indignation. Et votre guerre ne prendra-t-elle jamais fin? Par la corbleu, vous comptez en vain avoir le dernier avec Renard. Il en sait plus que vous et vous avez plus à craindre de ses tours que lui des vôtres. D'ailleurs, le pays est en repos, la paix est jurée. Malheur à qui s'avisera d'y porter atteinte.